Bonsoir, comment allez-vous ? En ce moment, certains abords du périphérique parisien sont couverts de fleurs jaunes. C'est une joie dans un secteur qui n'en procure pas tant. En les voyant, je réalisais avec effroi que les miennes de fleurs jaunes non seulement n'étaient pas sorties, mais étaient probablement mortes. Normalement, ces jonquilles fleurissent toutes seules chaque année. Après avoir fleuri, la jonquille fane et on ne la voit plus ni de l'été, ni de l'automne, ni de l'hiver. Et c'est une bonne surprise quand elle ressort sonner le printemps. Cette année, je réalise que mes jonquilles ne sortiront pas, car je les avais emprisonnées en posant deux énormes pots sur leur emplacement cet été. Triste bêtise. Il y a quelques jours, je décide de retirer ces pots, même si c'est trop tard, sait-on jamais. Quelle ne fut pas ma surprise de voir dessous une espèce de tige blanche molle rampant sur le sol. Elles avaient réussi à naître dans cet inconfort. Depuis, sous mes yeux, coupable et éblouie, se réalise une incroyable résilience. Les tiges verdissent et se dressent, les feuilles se déploient et maintenant il y a même des fleurs. À vrai dire, en y regardant de plus près, les tiges de ces jonquilles écrasées ne sont pas tout à fait comme les autres, mais leurs fleurs, si.
Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 12 ans et je voudrais savoir comment les plantes à bulbes font pour se reproduire, donc comment font-elles d'autres bulbes ? Merci de votre réponse.
Julien, merci pour cette question. Effectivement, comment les bulbes se reproduisent ? Catherine Laine, vous êtes chercheur en physiologie végétale, maître de conférence à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Pour répondre à sa question, il faut d'abord se demander ce que c'est qu'un bulbe. Donc les plantes à bulbes, c'est la tulipe, c'est l'oignon, c'est la jonquille, le crocus, etc. Ce bulbe, qu'est-ce que c'est ? Ben, je prends un oignon dans ma cuisine et je vais le couper en deux. Quand on coupe cet oignon dans le sens de sa hauteur, oui, on va voir à la base de l'oignon une sorte de plateau, c'est une tige très courte, très plate. Sur ce plateau, d'un côté, il y a quelques racines qui peuvent rester. Un bulbe de jacinthe aussi, on peut le faire germer facilement en mettant sur l'eau, on voit très bien les racines. Et puis de l'autre côté, portées par ce plateau, des feuilles qui ne sont pas vertes, qui sont gorgées d'eau et de sucre, et emballées dans d'autres feuilles, elles très minces, mortes, et qui se déchirent, ce sont les pelures d'oignons. Et au cœur de l'oignon, on a ce qu'on appelle le germe, qui est constitué en fait par un bourgeon. Un bourgeon, c'est une petite tige avec des feuilles qui n'est pas encore développée. Donc le bulbe, si je résume, c'est quoi ? C'est une tige complètement écrasée qui porte des feuilles. Donc c'est comme une plante, mais télescopée et rassemblée dans un espace restreint. Ce bulbe, c'est l'organe de réserve de la plante, oui, puisqu'il est gorgé de sucre. C'est cet organe qui lui permet de passer la mauvaise saison, passer l'hiver. Par exemple, si je prends une tulipe et je sème une graine, c'est pas ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on va acheter les bulbes en jardinerie. La première année, la graine va germer, former une plante qui va fabriquer des sucres au soleil. Et ces sucres viennent se stocker dans un organe souterrain qui est le bulbe. Et le bulbe se construit pendant la première année. À la fin de la première année, la première saison, il rentre en sommeil. Et puis il passe l'hiver dans la terre ou bien il est en jardinerie et il vous attend. Et au printemps, vous allez acheter vos bulbes ou bien le bulbe est dans la terre. Et à ce moment-là, il va germer. Et donc le bourgeon dont je parlais, le germe, va s'allonger, mettre en place cette fois le pied feuillé de la tulipe et fleurir. Et là, la reproduction sexuée pourra se faire puisqu'il y a une fleur, la fleur étant l'endroit où se trouvent les sexes de la plante, mâle et femelle. Cette reproduction sexuée pourra se faire et la fabrication des graines en sera l'issue. Donc les graines, à ce moment-là, seront disséminées et germeront dans le sol. Donc la tulipe, vous voyez, elle vit sur 2 années et elle meurt. Mais on a toujours l'impression quand même qu'il y a des bulbes au même endroit. En fait, la dernière chose qu'il faut dire, c'est que le bulbe qui s'est construit au cours de la première année, il peut se ramifier à la base, il peut se diviser en deux et former des petits bulbes, qu'on appelle des bulbilles. Et ce sont ces petits bulbes qui restent à l'endroit où était le premier bulbe, qui vont redonner derrière des tulipes fleuries. Donc tous les ans, on a l'impression que les fleurs viennent du même bulbe.
Donc il y a deux façons de se reproduire.
Oui, absolument.
Soit le bulbe se divise et en fait d'autres.
Voilà, ça c'est la multiplication végétative, il n'y a pas de sexe.
D'accord.
Soit la plante fait une fleur, et là c'est la reproduction sexuée.
Vous pouvez réécouter cette réponse de Catherine Laine sur franceinter.fr et trouver les références de ses livres sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 9 ans et demi et j'aimerais savoir pourquoi on appelle Paris la ville lumière. Merci.
Bonsoir, Arthur. Agnès Beauvais, comme Arthur, vous vous intéressez aux lumières de Paris et des villes, puisque vous avez écrit « Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain » chez François Bourin et Arte Éditions. Vous êtes documentariste. Pourquoi appelle-t-on Paris la ville lumière, demande Arthur.
On appelle Paris la ville lumière parce que c'est à Paris qu'est né le premier éclairage public sous Louis XIV. Avant cela, il y avait des tentatives d'éclairage, mais qui n'étaient pas vraiment suivies des faits, parce que ça coûtait très cher et Louis XIV a vraiment imposé l'éclairage public. Par la suite, c'est à Paris qu'il y a eu les premiers essais d'éclairage électrique dans l'espace public en 1844. Et c'est aussi à Paris qu'a eu lieu la première exposition internationale d'électricité en 1881, qui a été organisée à l'initiative des ingénieurs et des financiers qui s'intéressaient à l'électricité au 19e siècle et qui ont poussé vraiment à la fois le ministre de l'époque et la ville de Paris pour organiser une exposition qui n'était dédiée qu'à cela et ensuite qui va avoir un formidable succès. Donc Paris est la première ville éclairée à la bougie, on va dire au XVIIIe siècle. Elle n'est pas la première ville éclairée au gaz au XIXe. Elle ne sera pas la première ville éclairée à l'électricité, on va dire au XIXe siècle non plus. Mais en 1900, lors de la deuxième exposition universelle, la ville de Paris se dote de ce titre, ville lumière. Parce qu'effectivement, en 1900, elle a un peu rattrapé son retard sur les autres villes, telles que New York, qui ont déjà un éclairage électrique. Et elle brille de mille feux et elle rappelle que c'est à Paris qu'ont eu lieu les premiers essais, les premières tentatives d'électricité et que c'est à Paris qu'est né l'éclairage public.
Alors vous avez dit à plusieurs reprises, Paris n'était pas la première ville pour l'éclairage, donc New York, la première ville, et puis d'autres villes se sont éclairées avant nous.
Londres a été éclairée au gaz avant Paris. New York a été éclairée à l'électricité avant Paris.
Donc en fait, c'est Paris elle-même qui s'est appelée Ville Lumière. Comme quoi, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, Agnès Beauvais.
Oui, c'est un peu un argument marketing. Hein. C'est une façon de se vendre, d'attirer les regards. Ça a été de cette façon-là que Paris s'est mise en avant au tournant du XXe siècle, donc vraiment en 1900.
Décidément, Paris et les Parisiens, dit-on, sont doués pour se mettre en avant.
Tu sais, je ne vois plus, mais plus ton ombre.
C'était le chanteur Hope Olivier Marguerite, qui est un des chouchous de France Inter en ce moment.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants, des petits et des grands-enfants en posent des questions sur notre répondeur au 01 56 40 43 57 et nous nous débrouillons pour trouver quelqu'un pour leur répondre.
Bonjour, c'est Alric. Si on serait petit comme une poupée, on serait intelligent comme on serait grand parce que notre cerveau serait plus petit. Merci.
Bonsoir, écoute, alors, si j'ai bien compris, Ghislaine Dehaene, cet enfant qui n'a pas laissé son nom, mais cette question, demande, si on était tout petit comme une poupée, est-ce qu'on arriverait à être intelligent, car notre cerveau serait lui aussi tout petit? Ghislaine Dehaene.
L'intelligence n'a rien à voir avec la taille du cerveau. Alors, c'est quelque chose qu'on a cru au 19e, où on mesurait la taille des crânes, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'Anatole France, qui était une personne très connue de l'époque, avait un tout petit cerveau, et qu'il était très intelligent.
Vous êtes directrice actuellement, Ghislaine Dehaene, de l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospire, qui n'existait pas du temps d'Anatole France. On lui a regardé le cerveau après sa mort ?
On a regardé son cerveau après sa mort. Parce qu'à l'époque, on n'avait effectivement que les analyses post-mortem, alors que maintenant, on peut regarder directement avec l'imagerie cérébrale comment fonctionne un cerveau.
Ben, c'est votre métier.
C'est mon métier. Et donc, on peut voir que les bébés qui ont un cerveau très petit sont déjà très intelligents. Donc, la taille du cerveau n'est pas tellement le responsable de l'intelligence, mais plutôt son organisation. Par exemple, les singes, à la limite, ils n'ont pas un cerveau beaucoup plus gros qu'un cerveau de bébé. Et pourtant, au bout de 3 ans, les bébés, ils savent parler, ils savent marcher, ils savent déjà compter. Et les singes, malheureusement pour eux, ils ne sont pas aussi doués.
Malheureusement ou heureusement, finalement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On ne leur a pas demandé.
Sauf que c'est nous qui les embêtons et qui les faisons disparaître de la surface de la Terre. Donc,
c'est juste.
C'est nous qui avons une responsabilité.
C'est juste. C'est un autre débat, mais c'est juste. Donc, pour répondre, ce n'est pas la taille du cerveau qui fait sa performance.
Non, c'est son organisation. Et tous les humains, qu'ils aient une petite taille de cerveau ou une grande taille, c'est-à-dire même les gens qui n'ont pas réussi à grandir du fait d'un déficit hormonal, qui sont restés donc nains, ils ont un cerveau tout à fait normal et ils raisonnent comme vous et moi, comme le géant qui fait du bodybuilding ou de ce genre de sport.
Le docteur Ghislaine Dehaene, directrice de recherche au CNRS, sera en conférence le 14 mars prochain dans le cadre de la Semaine du cerveau à l'Académie nationale de médecine au 16 rue Bonaparte dans le joli 6e arrondissement de Paris.
Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 5 ans, je suis en CP et j'aimerais bien savoir s'il y a des hormones sur Mars. Merci.
Futur astrophysicien peut-être, Paul, 5 ans CP. François Forger, je ne sais pas si vous aviez 5 ans en CP, en revanche je sais que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous vous occupez des planètes et en particulier de Mars. Alors Paul se demande s'il y a des tornades.
Ah, quelle bonne question. Alors les tornades sur Terre, évidemment c'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent ça se forme quand il y a des orages, en gros quand il y a beaucoup d'humidité, il fait chaud, on voit surtout ça, c'est très connu parce qu'on voit ça dans les plaines aux États-Unis. Heureusement on n'en a pas trop chez nous en France. Et ça fait donc des gros orages et la puissance des tornades vient du fait que quand il fait tellement humide, quand l'air se condense pour faire des gouttelettes d'eau, ça libère plein d'énergie, ça génère ce qu'on appelle la convection, des ascendances d'air. Bref, ça fait des tornades avec un vent très puissant. Sur Mars, la situation est différente parce que Mars est une planète assez froide et surtout très très sèche. Il n'y a presque pas de vapeur d'eau. Alors on pourrait se dire il ne devrait pas y avoir de tornades. Eh bien si, il y en a quand même. La raison c'est que Mars est un désert, mais vraiment avec un climat hyper désertique. Ce qui fait que pendant la journée, il fait par exemple 20 degrés et la nuit suivante, il va faire moins 80. Alors 20 degrés pour un martien, c'est vraiment très chaud. C'est les tropiques, le sol est vraiment entre guillemets brûlant. Parce qu'on est quand même loin du soleil, donc il fait un peu plus froid en moyenne. Alors quand le sol est brûlant, il est beaucoup plus chaud que l'atmosphère. Ce qui fait que là encore, on a des ascendances d'air chaud, un peu comme quand il y a des tornades sur Terre. Et ces ascendances d'air chaud, on a observé, elles créent des tornades, des vraies tornades. Alors on les voit, non pas parce qu'il y a des gouttelettes d'eau comme sur Terre, mais parce que sur Mars, comme c'est un grand désert, il y a du sable, ou plus exactement des poussières minérales à la surface. Et donc ça soulève des grandes tornades de poussière. Les Américains appellent ça des dust devils, diable de poussière. Et certains prennent des dimensions importantes. On a des tornades de poussière qui montent jusqu'à 10 000 mètres de haut, qui font plusieurs centaines de mètres de large, et le vent est extrêmement intense. Alors, est-ce que c'est dangereux si on va se promener sur Mars? En réalité, on a des robots qui sont sur Mars. Et en fait, c'est pas trop dangereux. La raison, c'est que, heureusement, l'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus dense. Ce qui fait que même lorsque le vent souffle à 200 km/h, le robot, ou même nous, si on était là avec notre scaphandre astronaute, on ressentirait pas trop le vent. Et même, les tornades sont bénéfiques. La raison, c'est que il existe des robots, par exemple le robot Opportunity, qui se promène actuellement, c'est un véhicule à roulettes, qui se promène sur Mars, et qui est alimenté en énergie par des panneaux solaires. Comme Mars est un grand désert, la poussière s'accumule sur les panneaux solaires. Et au bout de quelques mois, régulièrement, il y a presque plus d'énergie, tellement il y a de la poussière sur le panneau solaire. Et heureusement, de temps en temps, une tornade passe juste au-dessus et nettoie complètement les panneaux solaires. Et donc, à ce moment-là, Eureka! Les panneaux solaires sont tout propres, l'énergie solaire vient à plein, et c'est ainsi que Opportunity, qui était prévu pour vivre quelques mois, qui est arrivé en 2004, est encore en pleine forme et se promène autour de Mars, et c'est grâce aux tornades de poussière qui régulièrement viennent nettoyer les panneaux solaires.
C'est génial.
C'est pratique.
On pourrait pas lui apprendre un robot à nettoyer ses panneaux solaires, à lui donner un petit balai, non?
On aurait pu, c'est souvent envisagé, mais c'est très compliqué de faire des mécanismes comme ça.
Ouais.
Et puis maintenant, on sait que les tornades de poussière font le boulot, donc c'est sur ça qu'on compte.
Des nouvelles d'Opportunity. Depuis que François Forget est venu au petit bateau, Opportunity est mort. Effectivement, il avait été construit pour vivre 90 jours, il a vécu 15 ans. Il avait été construit pour rouler un peu plus d'un kilomètre et il a roulé 45 kilomètres. C'est probablement une énorme tempête qui a eu sa peau.
Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Moby, qui de son vrai nom s'appelle Richard Melville Hall. Et il est né à New York un 11 septembre en 1965.
Bonjour, je m'appelle Flora, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les tortues vivent plus longtemps que nous.
Docteur Samuel Martin, vous êtes spécialiste de crocodiles, vous dirigez la ferme aux crocodiles, vous êtes vétérinaire, mais vous aimez aussi, et vous avez aussi dans cette ferme, des serpents et des tortues. Alors c'est vrai que les tortues vivent plus longtemps que nous?
Alors c'est pas totalement vrai, hein, Flora. Toutes les tortues ne vivent pas plus longtemps que nous. On a certaines petites espèces, notamment la tortue d'Hermann, On est entre 45 et 60 ans dans les meilleurs...
C'est bien quand même, mais c'est pas plus longtemps que nous.
C'est pas plus longtemps que nous.
C'est vrai.
Alors après, on a des cas d'école, en particulier sur les espèces géantes, les tortues des Galapagos, les tortues des Seychelles, les tortues d'Aldabra. On a des animaux qui ont vécu jusqu'à 200, 250 ans. D'ailleurs, il y a Kiki, la tortue des Seychelles du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est décédée il y a 2 ou 3 ans et qui avait largement plus de 100 ans. Donc, effectivement, chez ces espèces, il y a une longévité importante.
Alors, qui est le prédateur de la tortue adulte ?
Il n'y en a pas à part l'homme. Ces tortues géantes, en fait, ont été pas mal décimées lors des premières explorations. En fait, on les chargeait sur les bateaux parce qu'elles sont capables de vivre longtemps sans manger, sans boire. Qu'on faisait peu de cas de la souffrance animale à cette époque-là et qu'on les gardait en fait comme réserve de viande et on les tuait au fur et à mesure. Alors ensuite, pourquoi elles vivent plus longtemps? On n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui claire à apporter à ça. On a, nous, il n'y a pas très longtemps, reçu une équipe de chercheurs qui sont venus faire des prises de sang sur nos tortues, là, à la ferme aux crocodiles, pour justement explorer ces questions. Mais on peut donner 2 éléments de réponse. La première, c'est que ce fameux adage, qui va piano va sano, qui va lentement va sainement, c'est un peu leur mode de vie. Elles ont un métabolisme relativement lent et donc effectivement elles vont vieillir moins vite. La sénescence va arriver moins rapidement. Et puis après, ce que sont venus explorer cette équipe de chercheurs là de Montpellier, ils regardaient si il n'y avait pas des particularités au niveau des télomères. Alors les télomères, c'est la partie terminale des chromosomes. Et il faut voir, nous, notre mode de vie, on a beaucoup de cellules qui vont se régénérer, elles se régénèrent en se multipliant. Et donc c'est un peu comme une cassette qu'on va dupliquer. Et en fait, au moment où on duplique, on mange un petit peu le tout début et la toute fin. Et donc quand on répète ça des milliers de fois, à la fin on finit par raccourcir le temps de la cassette. Alors sur l'ADN, c'est un petit peu pareil, sur les chromosomes, ces télomères ont pour vocation un petit peu de stabiliser le chromosome. Et en fait, on se rend compte que quand on rogne ces télomères, arrivé au bout, et bien à un moment, on perd cette stabilité, ce qui serait une explication de la sénescence. Et donc, ce qu'on constate, c'est que chez les tortues, les espèces de tortues qui peuvent devenir très vieilles, on a une structure des télomères un petit peu différente, cet ADN en bout est hydroxylé, et donc ça lui confère une stabilité supérieure qui fait que on va répliquer la cassette moins souvent et qu'en plus les télomères sont plus costauds, les bouts sont plus costauds, et bien fait qu'on peut avoir des animaux qui vivent 100, 200, je vous dis, les plus grands cas avérés, c'est 250 ans.
Depuis que Samuel Martin est venu au petit bateau, des scientifiques ont eu la bonne surprise de découvrir aux Galapagos une tortue vivante qu'ils croyaient disparue depuis longtemps. Une grosse femelle appartenant à une espèce propre à l'île inhabitée de Fernandina, n'est-ce pas joli? Et ce qu'ils aimeraient bien maintenant, ces scientifiques, eh bien c'est lui trouver un copain à cette tortue. Mais enfin, une grosse tortue, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Rémi Sistiaga, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Eliane Girard, Noël Bréham, nous vous souhaitons une bonne fin de week-end et vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr ou bien les télécharger. Nous vous laissons avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.